Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Je suis extrêmement heureux aujourd'hui de recevoir le président Yvon Gattaz pour son dernier livre qui s'intitule « L'entreprise et les jeunes » avec 30 témoignages de personnalités. Alors, juste un mot avant d'offrir la parole à mon invité, qui est Yvon Gattaz. Je pense que vous le connaissez, mais enfin, nous avons beaucoup d'auditeurs à l'étranger et le nom vous dit bien sûr quelque chose. Et je commencerai cette présentation en disant que Yvon Gattaz, grâce à son dernier livre, mais finalement son dernier livre est un nouveau livre qui parle sur ce sujet qu'il adore, Yvon Gattaz est l'homme qui murmure à l'oreille des jeunes. Ingénieur ECP, créateur avec son frère d'une entreprise de pointe radiale, dirigée aujourd'hui par son fils Pierre. Il a été le président du CNPF, devenu le MEDEF. Il est membre de l'Institut Académie des sciences morales et politiques depuis 1989 et l'auteur de nombreux livres économiques. C'est un homme qui, s'il murmure à l'oreille des jeunes, il a aussi l'oreille des grands de ce monde, il faut bien le dire. Notamment, il était le patron des patrons lorsque le président Mitterrand était en place. Et ce ne fut pas, si je me souviens de certaines de nos conversations, ce ne fut pas une mince entreprise. Alors, cher président Gattaz, il y a ce livre, « L'entreprise et les jeunes ». Et j'aimerais juste vous provoquer, il y a cette fameuse formule de Jean Nohain qui est quand même très jolie. Si nous aimons les jeunes, c'est un secret que nous allons vous livrer, c'est que figurez-vous, nous l'avons été nous-mêmes. Et c'est vrai, on l'oublie parfois.
Et oui, c'est la plaisanterie classique, comme disaient mes amis, un gattazisme, puisque c'est la formule consacrée me concernant, que j'accepte d'ailleurs bien volontiers. Mais il faut mettre un petit peu d'humour, surtout lorsqu'on parle aux jeunes. Ils sont très sensibles, vous le savez, aux formules chocs, aux plaisanteries, aux gattazismes, aux gattazeries et aux adages bien présentés plutôt qu'aux théories. Les théories passent, les exemples restent. Alors, ce livre est fait pour eux, n'est-ce pas ? C'est pour leur redonner un peu d'espoir et leur montrer que si leur situation est assez grave, car effectivement, le chômage des jeunes, qui est moins important qu'on le dit par bonheur, est quand même inquiétant, beaucoup d'adultes, beaucoup de responsables, en particulier des responsables d'entreprise, tels les chefs d'entreprise qui ont co-signé ce livre avec moi, ils sont nombreux et de haute qualité, tous ces gens-là s'intéressent à l'éducation des jeunes, à leur formation, pour faciliter leur insertion dans la vie professionnelle, ce qui est un parcours, je le reconnais, compliqué. Nous avons une maxime à l'association Jeunesse et Entreprise, que j'ai créée, comme vous le savez, il y a 25 ans, qui fête aujourd'hui son 25e anniversaire.
C'est formidable.
Oui, dès le début, nous avions fixé un plan d'action sous forme d'un triptyque qui s'appelle « Information en amont », formation au milieu pour insertion finale après les deux premières étapes, ce qui est symbolisé par IFU. Et bien entendu, les jeunes qui aiment les plaisanteries ont appelé ça la chaîne IFI. Mais ce n'est pas une chaîne haute fidélité, c'est une chaîne de solidarité entre les adultes et les jeunes.
Pourquoi ce qui est quand même très beau, je trouve, du point de vue de Sirius, pourquoi cet intérêt vraiment constant pour la jeunesse? C'est pas si fréquent que ça dans notre pays.
Alors, en ce qui me concerne, il y a une raison familiale. Figurez-vous, et c'est peu connu, c'est que je suis moi-même, Yvon Gattaz, fils et petit-fils et père d'enseignant. Je suis donc un ingénieur qui a manqué sa vocation traditionnelle et familiale de professeur, peut-être de philosophie, de sociologie ou de mathématiques, je n'en sais rien.
C'est un beau métier.
Mais c'est un très beau métier. Et j'ai gardé pour ce milieu de l'enseignement une affection particulière. Mais je ne peux pas dire non plus que ce n'est pas une affection pour l'entreprise, puisque j'en ai créé une avec mon frère à partir de zéro en 1952, le groupe Radial qui fabrique des composants électroniques de connexion. Et puis, j'ai été, comme vous le rappeliez tout à l'heure, ce qu'on appelait en France le patron des patrons de 81 à 86, dans une période un peu troublée, où l'entreprise n'était pas tout à fait à l'honneur, et il a fallu la défendre bec et ongle. Donc, je suis porteur de deux valeurs simultanées. Or, à l'époque où je suis entré dans l'industrie, où j'ai créé notre entreprise avec mon frère en 52, ces deux mondes s'ignoraient superbement. Il n'y avait pas, comme on l'a dit, de l'hostilité entre le monde de l'enseignement et le monde de l'entreprise, c'était trop dire.
L'indifférence.
Mais il y avait de l'indifférence. Alors vous savez, cher Axel Mouget, que par moments l'indifférence est pire que l'hostilité.
Ah oui. On ne réagit pas.
C'est passif. Alors, moi, je voulais rompre cette indifférence. Et étant partie prenante des deux côtés, j'ai dit, je me suis senti, si j'ose dire, c'est pas trop présomptueux, un peu investi d'une mission de rapprochement.
C'est l'impression que j'ai eue en lisant ce livre, qui est un livre tout à fait passionnant, d'une part par tout ce que vous nous racontez, tout ce que vous nous dites, et avec beaucoup de formules percutantes, gâtazeries et autres, et aussi de ces chefs d'entreprise. Il y en a un notamment qui m'a choqué, mais je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Mais nous allons en reparler. Mais alors, pourquoi ces jeunes sont-ils aussi peu optimistes?
Vous savez,
selon les sondages.
Oui, vous savez, on fait dire un peu aux jeunes ce qu'on veut. Prenons un exemple, le taux de chômage des jeunes. Le bruit court ici ou là, et c'est devenu une quasi-certitude, que nous avons en France un jeune sur quatre, voire un sur cinq, mais plutôt un sur quatre, au chômage. C'est complètement faux, par bonheur. Par bonheur. Et pourquoi? D'où vient cette erreur? Cette erreur vient tout simplement du fait que le taux de chômage, formule légalisée par le BIT, le Bureau international du travail, comporte une ambiguïté très grande. Au numérateur de la fraction, on y met les chômeurs de moins de 26 ans, ce qui est normal, mais au dénominateur, on met ce qu'on appelle la population active d'un jeune. On savez-vous ce que c'est que la population active? Ce sont ceux qui travaillent et les chômeurs. À l'exception des scolarisés. Or, comme vous le savez, la France a deux jeunes de moins de 26 ans scolarisés sur trois, deux sur trois, alors que l'Allemagne en a un sur trois, n'est-ce pas? Deux fois moins. Si vous diminuez le dénominateur, vous augmentez la fraction, on apprend ça à l'école primaire. C'est pour ça que nous avons un taux, de chômage version BIT extrêmement élevé, ce qui fait raconter qu'on a un chômeur sur quatre. Nous, à Jeunesse et Entreprise, et je l'explique bien dans ce livre, l'entreprise et les jeunes, si nous prenions une autre définition que nous appelons la part de chômage, qui est également une définition légale, c'est le même numérateur, mais sur la population totale de jeunes. Et on s'apercevrait qu'à ce moment-là, nous avons une part de chômage qui est entre 8 et 9% comme tous les pays d'Europe.
Ah oui, donc on rejoint. Il y a aussi d'autres statistiques données dans ce livre extrêmement intéressant qui évoquent aussi cette période de mai 68, rapidement, mais qui évoquent tout de même, et qui montrent que les jeunes Français sont moins diplômés que la même classe d'âge dans certains pays, comme par exemple le Japon, 80% des jeunes le sont diplômés, 60% en Corée du Nord ou 55% aux USA. Et chez nous, seulement 40%. Ce sont des chiffres quand même curieux.
Nous avons beaucoup d'études qui n'aboutissent pas, et c'est un peu le drame de la formation française, c'est un peu le drame de l'enseignement supérieur aujourd'hui, vous le savez. L'enseignement supérieur, à part les grandes écoles où on entre par concours, vous savez que dans l'université, on y entre dès qu'on a ce vademécum qui s'appelle le bac. Et les pauvres jeunes croient qu'avec ça, ils sont arrivés. Et forcément, la sélection, ça ne se fait pas à l'entrée, elle se fait dans le cursus.
La fin de la première année.
Et voilà pourquoi nous avons tant de jeunes qui n'achèvent pas leurs études et pourquoi nous avons tant de jeunes sans diplôme à la fin.
Et puis peut-être parce qu'il y a une question de financement, c'est-à-dire que dans la mesure où il y a cet élément de gratuité, comme c'est gratuit, ça n'a pas tellement de prix. Ça rejoint un peu la formule de Coluche que vous citez dans le livre. Pourquoi le travail? Le salaire suffit. Et ça rejoint encore mai 68, donc il y a un peu de ça. Moi, j'ai trouvé ce livre extrêmement intéressant parce que sur un continuum d'au moins 25 ans, vous montrez tout à fait une société qui change.
Une évolution.
Une évolution formidable.
Il n'y a pas de doute. Vous avez tout à fait raison. Il y a eu, puisque je suis depuis le début, puisque je l'ai créé moi-même il y a 25 ans, j'ai constaté cette évolution continue, n'est-ce pas ? On peut dire que ces deux mondes dont nous parlions tout à l'heure et qui s'ignoraient, eh bien, c'est comme deux plaques tectoniques qui se rapprochent tout doucement. Alors, le malheur, c'est qu'elles se rapprochent comme des plaques tectoniques, imperceptiblement, mais irréversiblement. Et je peux témoigner que le monde de l'enseignement, pour qui j'ai beaucoup de sympathie, le monde des jeunes, de façon plus large, c'est-à-dire l'enseignement, les parents d'élèves et les jeunes eux-mêmes, et le monde de l'entreprise, avec les PDG, les DRH, les embaucheurs, eh bien, ces deux mondes sont en train de se rapprocher et de se comprendre et de se parler, ce qui n'est pas rien.
C'est très important ce que vous venez de dire et j'ajouterai peut-être une petite nuance en lisant le plus attentivement possible ce livre qui est vraiment passionnant pour l'enseignant, pour le chef d'entreprise, pour les parents. C'est que justement, est-ce que ce ne sont pas un peu les parents qui ont délaissé le bébé, c'est-à-dire l'enfant, auprès du monde enseignant qui s'est trouvé avec beaucoup de problèmes. Mais est-ce que les parents ne sont pas un petit peu coupables, certains d'entre eux, depuis une vingtaine d'années ?
Dans ce livre, nous faisons un appel à toutes les catégories, et en particulier un appel aux parents. Et vous qui êtes professeur, vous le savez mieux que personne, n'est-ce pas ? Beaucoup de familles se sont dégagées en abandonnant leurs enfants à l'enseignement, qui est chargé de les former. Or, c'est vrai qu'on peut donner de l'enseignement, mais pas forcément de l'éducation, ni de la moralité, ni du sens civique, ni le goût du travail, ni tout ce qui était dit autrefois dans les familles.
Ni la psychologie élémentaire.
Et beaucoup, la psychologie, etc. Donc, si vous voulez, il y a eu un peu une sorte d'abandon qui est dû peut-être au fait que maintenant toutes les femmes travaillent et qu'elles sont très occupées par ailleurs, elles ont d'autres sujets de préoccupation et qu'elles ont dit bah, « d'autres s'occuperont de nos enfants ». Eh bien là, c'est une démarche récente qui n'a pas été très bonne pour les enfants eux-mêmes. En plus, vous savez que maintenant la famille est souvent éclatée.
Ce qui est vrai.
On se marie, on se remarie, on a des demi-frères, des nouveaux papas et des nouvelles mamans. On dit, mais tout ça, ça s'arrange pas si bien que ça. Car nous qui travaillons toute la journée avec les jeunes et qui nous occupons beaucoup d'eux, nous constatons que ceux qui ont eu des problèmes familiaux ne sont pas ceux qui réussissent le mieux dans leurs études. Nous avons fait un constat assez affligeant.
Que je trouve important, et je rappelle donc le titre de ce livre, Yvon Gattaz, L'entreprise et les jeunes avec le témoignage de 30 personnalités chez l'éditeur François Bourin. Et ce que je trouve très important dans ce livre, c'est, je parlais tout à l'heure de continuum, c'est cette tranche de 30 ans ou 25 ans qui montre vraiment une évolution de notre société par rapport aux jeunes, qui est assez fascinant parce que le jeune des années 80, il était beaucoup moins tourné vers le virtuel, beaucoup plus tenu par des institutions. Et aujourd'hui, par contre, il est beaucoup plus imaginatif, s'il le veut, il est beaucoup plus imaginatif, libre, je dirais, avec évidemment les problèmes de la liberté.
Bien sûr. Alors, il se trouve que les milieux chaleureux et conviviaux ont un peu changé de forme. Si on reprend l'histoire, il y a eu, on vient d'en parler à l'instant même, il y a eu la famille qui aujourd'hui est un peu désorganisée. Il y a eu les religions, l'Église, qui était un lien extraordinaire dans le passé, qui est un petit peu atténué aujourd'hui. Il y a eu la politique, qui a été un lien dans certaines périodes de la France, qui est aujourd'hui un petit peu chahutée et vilipendée. Et l'école, qui, je le répète, s'améliore beaucoup et n'a pas démérité, mais enfin, n'est plus quand même le milieu de mes grands-parents, qui étaient directeurs d'école en province et qui étaient le petit notable, le hussard de la République, comme on le disait avec émotion. Et aujourd'hui, il se trouve que le milieu peut-être le plus convivial, c'est l'entreprise, contrairement à ce qui se dit souvent. Alors, c'est vrai qu'on prend toujours l'exemple de très grands groupes décentralisés où la hiérarchie est numérotée, mais si on prend des entreprises de taille humaine, les toutes petites, les TPE, les PME bien connues et les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, toutes ces entreprises de taille humaine, on s'aperçoit que le climat y est extraordinairement convivial. que le fameux dialogue social que tout le monde cherche, comme le maréchal Soubise cherchait son armée avec sa lanterne, eh bien, ce dialogue social, il existe. Il existe très bien, mais il existe à la base. C'est-à-dire qu'il n'est pas institutionnalisé, massifié, organisé, comme on voulait faire à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, où les ouvriers étaient analphabètes, il fallait bien des organisations ou des organismes pour les représenter. Aujourd'hui, que l'information circule, que les salariés, les collaborateurs comprennent tout, apprennent tout, savent tout, ils peuvent discuter avec leur patron sans intermédiaire, et ça redonnait une âme, de la vitalité au dialogue personnalisé, humanisé à la base.
C'est très intéressant parce que c'est vrai que grâce à ce livre, on a l'impression qu'il y a tout d'un coup un passage d'une école toute maîtresse du monde, d'une certaine façon, où elle croyait l'être, à tout d'un coup, grâce à vous, à vos amis, à vos collaborateurs, au patron, à une entreprise qui finalement permet aux jeunes d'entrer dans ce monde adulte, enfin adulte, si j'ose dire, et où, imaginez le mot entreprise, une ligne, vous le dites dans votre livre, une ligne dans le dictionnaire, il y a 25 ans, alors qu'aujourd'hui, beaucoup de gens savent ce que c'est quand même qu'une entreprise, même s'ils ne le connaissent pas dans le détail, ils le savent. Donc, livre tout à fait fascinant pour les conseils que vous donnez. Il y a énormément de conseils, pour notamment pour les jeunes.
Oui, c'est un peu le but de ce livre. Si j'ai fait appel à toutes ces personnalités, à 30 personnalités, de milieux assez divers, c'était justement pour qu'il y ait des conseils différenciés, si vous voulez. Vous remarquerez que sur les 30 personnalités auxquelles vous venez de faire allusion, il y en a une dizaine qui sont de notre association jeunesse et entreprise, c'est-à-dire qui s'occupent des jeunes en permanence, ou des présidents de clubs régionaux, qui ont une action provinciale importante, ou des experts bénévoles parisiens qui nous aident à faire des conférences, des enquêtes, des statistiques. Ensuite, vous avez quelques personnalités du monde de l'enseignement. Vous avez Jean-Robert Pitt, mon confrère de l'Académie des sciences morales et politiques, qui est comme celle du délégué à l'information des jeunes auprès du Premier ministre. Vous avez le recteur Boissineau, très connu. Vous avez le président de l'Université Pierre-et-Marie Curie, qui est très connu également. Vous avez des gens très connus. Et puis alors, vous avez les gens de l'entreprise dont nous venons de parler.
Alors,
tous les deux.
Président, permettez-moi de vous interrompre, mais il y en a un qui m'a choqué. J'ai trouvé son texte tout à fait intéressant. Il s'intitule « Ouvrir aux jeunes les portes des entreprises ». C'est un très bon texte. Mais alors, nous qui sommes à l'Académie française, cet EDF, j'ai nommé là Henri Proglio d'EDF, que je ne vais surtout pas vilipender, mais il offre aux jeunes des stages ou des qui s'appellent « People Development Program »,« Energy Day »,« Serious Game »,« Energy Task Force », « Two Days Together ». Alors, franchement, je trouve que pour notre pays, qui est la deuxième puissance mondiale en rayonnement culturel, ou tout au moins apprécié par tellement de gens, c'est un peu choquant quand même.
Cher Axel Bouget, tous les auditeurs de Canal Académie savent que vous êtes le meilleur ambassadeur de la francophonie, et vous avez raison de réagir comme vous le faites.
Vous me gâtez.
Bon, eh bien écoutez, il faudra demander à notre ami Henri Proglio, qui a été longtemps le président de Veolia, et qui est plus récemment le président d'EDF, mais qui est très motivé par les jeunes.
Très bien.
Eh bien, il faut lui dire qu'il faut qu'il pose sa candidature à l'Académie française, qui l'obligera à parler français, et tous ces groupes de travail prendront des noms enfin francisés, et ça nous réjouira tous les deux. Mais vous remarquerez qu'il y a quand même pas mal de personnalités. Vous remarquerez qu'il y a quand même, si on prend les PDG qui ont quand même des rôles importants.
Augustin de Romanet.
N'est-ce pas ? Vous avez Augustin de Romanet de la Caisse des dépôts. Vous avez Serge Dassault qui s'occupe beaucoup de jeunes et qui croit très sincèrement. Vous avez Henri Lachmann de Schneider qui s'est toujours occupé des jeunes toute sa vie. Antoine Frérot de Veolia, qui a le plus gros centre d'apprentissage de France, près de Cergy-Pontoise.
Passionnant.
Vous avez Bruno Lafont de Lafarge, qui fait visiter son grand centre à tous les jeunes du coin, à l'île d'Abeau, près de Lyon. Vous avez Benoît Roger-Vasselin, qui est le DRH de Publicis, mais le président de la négociation du BNF, c'est-à-dire qui s'occupe des jeunes toute la journée. Oui, nous avons des gens très qualifiés. Mais qui s'engage.
Oui, oui. Je vais vous dire tous les
textes.
Et celui d'Henri Proglio, je ne vais pas dire comme Molière, je fais amende honorable, mais je fais amende honorable. Mais Henri Poglio, le texte est excellent. Mais j'avoue que, je reviens là-dessus, j'ai été un peu chagriné. Mais bon, on va lui passer le message. C'est un homme fort intelligent.
Mais, on va lui écrire « Write in French ».
Oui, oui, voilà. C'est, exactement, ça serait une très bonne chose. Mais vous savez, alors j'ai trouvé très beau une formule que j'ai trouvée dans Stéphane Roussel sur les jeunes et la diversité. J'ai trouvé quelque chose qui est bien, et c'est vrai, c'est très important, c'est un mot très important, les recruteurs recherchent l'authenticité.
Alors, c'est le DRH très compétent et très motivé de Vivendi qui embauche énormément de jeunes, et il recherche, à juste titre chez les jeunes, l'originalité, la spécificité, le caractère. Et il donne plus d'importance à ces qualités d'hommes, que nous appelons nous des qualités d'émission, plutôt que qualité de diplôme, de compétences immédiates, que sont que nous appelons qualité de réception, qui permettent de passer les concours et les diplômes. Et tester la personnalité, c'est miser sur l'avenir. C'est de dire, ce garçon, je l'embauche, bien, pour le poste actuel, où il va rester peut-être un an ou deux, mais s'il a les yeux qui brillent, comme nous le disons dans notre jargon, il va pouvoir prendre d'autres initiatives, d'autres responsabilités, d'autres postes dans l'entreprise. C'est miser sur l'avenir. En visant la personnalité, c'est miser sur l'avenir. C'est pour ça que nous dénonçons un petit peu le schéma tout fait des curriculum vitae. Voulez-vous présenter, pour être efficace, votre curriculum vitae, avec votre photo à gauche, votre titre à droite, et rédiger de telle façon?
Oui, c'est...
Attendez, moi qui suis un recruteur depuis très, très, très longtemps, j'ose plus le dire devant les dames, tellement je suis âgé, n'est-ce pas? Mais...
Ça, c'est vous qui dites, président.
Non, mais
c'est
vous comprenez, quand je reçois une lettre originale, présentée de façon originale, je me dis, tiens, voilà un garçon ou une fille qui a du caractère, j'aimerais le voir. Et donc, les modèles trop stéréotypés ne sont pas les meilleurs, même pour les curriculum vitae. C'est pour ça que je conseille à ces conseillers en recrutement de changer un petit peu leur langage.
Président, les jeunes ont-ils perdu quelque chose par rapport à il y a 25 ans? Est-ce qu'il y a une qualité, quelques éléments qu'ils n'ont plus vraiment, qu'ils devraient avoir ou qu'ils n'ont pas suffisamment?
Alors, beaucoup de psychologues nous disent... Il se peut que les jeunes étaient trop gâtés par la vie, que la vie est plus facile, surtout pour ceux qui n'ont pas connu de guerre, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de jeunes actuels qui
ont connu
la guerre, mais pas eux du tout. Donc ils ont vécu, on connaît cela, dans un certain confort, ils ont tous le téléphone portable, souvent à 18 ou 20 ans, on leur achète une petite voiture d'occasion ou au moins un vélo moteur. Donc ils vivent quand même dans un certain confort matériel que n'avaient pas leurs parents. Et de là à croire que ça limite leurs efforts, c'est une erreur. Car moi, je connais beaucoup de jeunes qui, malgré ce petit confort matériel, ont envie de réussir. C'est ce que nous appelons la pétence. Et alors, il faut que les jeunes aient de la pétence. La pétence pour faire des choses. Même quand ils me disent « j'aimerais gagner beaucoup d'argent », eh bien, figurez-vous que je leur dis « vous avez raison ». Parce que le fisc se chargera de les calmer plus tard. Mais moi, que je vois qu'ils me disent « j'aimerais la grande villa ».
Cela dit, il y a un aspect quand même qui est très ennuyeux pour les jeunes qui démarrent dans la vie, c'est le prix de l'appartement, notamment dans les grandes villes. Ça, c'est un vrai problème.
C'est un vrai problème.
Alors qu'avant, les jeunes pouvaient économiser, avaient un bon salaire, etc. Et là, c'est un vrai problème.
Un gros problème. Le problème du logement des jeunes est un problème sociétal de première grandeur. Mais en revanche, vous savez que nous prônons beaucoup, nous, la création d'entreprises à partir de zéro, ex nihilo. Et l'entreprise de croissance. Et nous faisons des conférences, je fais moi-même, puisque j'avais écrit dans le passé un livre, sur le premier livre sur la création d'entreprises, en 1970, Les Hommes en Gris, qui avait eu beaucoup, beaucoup de succès, et qui m'a donné une petite auréole dans ce domaine-là. Et j'ai repris un peu mon carquois et mes flèches, et je refais depuis déjà longtemps, depuis 10 ou 15 ans, des tournées de conférences, créer des entreprises à partir de zéro. Contrairement à ce qu'on dit, c'est possible. Contrairement à ce qu'on dit, il y a moins d'échecs qu'on le croit, mais ça demande du travail, du travail,
toujours du travail,
de l'initiative. Or, figurez-vous que nous venons de terminer pour le colloque Jeunesse Entreprise d'octobre, du 13 octobre, nous venons de terminer une enquête. Et on vient de demander aux jeunes, à votre avis, jeunes gens, quelles sont les qualités que vous mettriez en tête pour réussir dans votre carrière professionnelle. Eh bien, à notre grande surprise, nous avons découvert ces jours-ci qu'ils ont mis en tête, eux, les jeunes, le travail. Ah, on ne s'attendait pas à ça. Donc les jeunes aujourd'hui savent très bien que s'ils veulent réussir, il faut travailler, travailler, travailler beaucoup.
Donc, exit Coluche.
Mais vous voyez,
Et alors, il y a une juste statistique quand même très intéressante. À une époque où l'aspect religieux est assez différent de celui que nous avons connu dans notre enfance, ou etc., etc., les jeunes chrétiens sont beaucoup plus optimistes, d'après le sondage que vous offrez dans le livre, beaucoup plus optimistes que les autres.
L'optimisme est également réparti. Quand on dit que les jeunes sont pessimistes, il y en a. Nous venons de faire une deuxième enquête avec un deuxième institut d'enquête qui, lui, nous a poussé à faire une enquête sur les jeunes uniquement qui étaient au chômage et qui ne trouvaient pas d'emploi. Vous vous en doutez, ce n'est pas un sondage très réjouissant.
Non.
Ils ne nous ont pas dit « on est heureux, heureux, heureux ». Alors ils dénoncent toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées, le manque d'assistance, la longueur pour trouver un emploi stable, le peu d'aide. Comme ils disent, globalement, c'est une démarche très solitaire. Et c'est vrai, ça nous a frappé, ça.
Surtout à un âge.
À un âge où ils sont isolés. Et cette démarche solitaire nous a beaucoup frappé. Et ça, c'est vrai. Donc, si vous voulez, dans nos sondages, on a quand même des... Il ne faut pas croire que nous sommes des optimistes béats. Non, nous sommes des optimistes inquiets. Optimistes. D'ailleurs, ce livre, vous l'avez vu, avec les 30 témoignages, c'est quand même un livre généralement optimiste.
Oui,
généralement
c'est optimiste, tout à fait. Je trouve que c'est un livre optimiste, mais sans...
Mais réaliste.
Réaliste, voilà.
C'est pas un optimiste béat, absolument. On y arrivera, mais il faut travailler, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut qu'on vous aide, il faut que vous-même vous preniez des responsabilités. Il faut que les parents s'engagent, que les enseignants s'engagent, et que les jeunes travaillent, et que les entreprises prennent leurs responsabilités dans la formation.
Et je crois que ça va être presque le mot de la fin. Aide-toi et les entreprises t'aideront.
C'est
pas bête. Alors, chers auditeurs, nous avons eu la chance aujourd'hui de recevoir, j'ai eu la chance aujourd'hui de recevoir Yvon Gattaz, l'homme qui murmure à l'oreille des jeunes. Et c'est vrai, c'est un livre qui est réaliste, qui n'est pas du tout triomphaliste, et qui est émouvant. Parce que quand on le lit page à page, on s'aperçoit qu'il y a des ici et là des secrets, une méthode, de l'enseignement. Et ce pont que vous avez su établir, comme pas deux, entre l'école et l'entreprise, est à mon avis assez unique. Donc Yvon Gattaz, l'entreprise et les jeunes avec 30 témoignages de personnalités, chez François Bourin, éditeur, un livre tout à fait passionnant et réaliste. Merci.
Merci beaucoup.